Bonjour, c'est Axel Le Tarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous. Et maintenant, Israël peut-il rester sans réponse alors que l'Iran a tiré 300 drones et missiles sur son territoire? Les Américains exhortent Benjamin Netanyahou à ne pas riposter. Mais pour une partie de la population israélienne et l'aile droite du gouvernement, il en va de la sécurité du pays face à un ennemi, l'Iran, qui est sur le point d'acquérir la bombe atomique. Alors faut-il craindre un embrasement dans la région? Pourquoi et comment Israël a-t-il réussi à détruire 99% des drones et missiles lancés par l'Iran samedi soir? Et puis pourquoi la France, la Jordanie ont-elles participé à cette opération visant à détruire ces missiles iraniens? C'est le sujet de cette émission de C'est dans l'air, intitulée ce soir « Israël, Iran ». Peut-on éviter la riposte? Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Aski. Vous êtes chroniqueur international à France Inter et à l'Obs. Je cite votre chronique du jour, « La quête de dissuasion pousse Israël à l'escalade ». Et je vous rappelle votre livre, « Une terre doublement promise », c'est chez Stock. Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, vice-présidente de l'IREMO, c'est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Nicole Bacharan, historienne, politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest-France. Votre livre, « La plus résistante de toutes », c'est chez Stock. Et enfin, général Patrick Dutartre, vous êtes général de l'armée de l'air et de l'espace. Vous avez été pilote de chasse. Merci de participer à cette émission en direct. Général, peut-être commençons avec votre regard de général de l'armée de l'air sur cette attaque massive samedi soir. 300 projectiles, donc des drones et des missiles. Qu'est-ce qu'on peut en dire et quels sont ces types d'armes?
La première chose qui m'interpelle, c'est que ça fait 45 ans, c'est la première fois depuis 45 ans que l'Iran attaque directement le territoire d'Israël. C'est la première chose. La seconde chose, effectivement, comme vous le dites, 330 vecteurs aériens de différents types, hein, des missiles balistiques, les fameux drones Shahid que l'on connaît depuis longtemps, et puis quelques missiles de croisière. La troisième chose, c'est la distance. Jérusalem, frontière iranienne, 1000 km. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu de préavis. On n'est pas directement à la frontière. Et donc ça explique aussi les résultats spectaculaires de la défensive. Ensuite, la défensive, et il n'y a pas que les Israéliens, en fait, on a eu du préavis.
On va revenir sur le dôme de fer, mais juste sur ces armes iraniennes. Des missiles, on connaissait. Les drones, maintenant, font partie intégrante de l'arsenal offensif. Quels sont-ils, ces drones? À quelle vitesse circulent-ils? Comment sont-ils?
Un petit drone, c'est simple. Alors, il y a différents types, comme celui que vous voyez là, mais qui est le plus sophistiqué qui existe, qui est une copie d'un drone américain, qui, lui, vous voyez, est réutilisable et qui lance des roquettes ou des petits missiles air-sol. Et que l'on récupère. Les drones qui ont été utilisés là sont ce qu'on appelle les drones kamikazes, un peu comme les V1 et V2 à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire que c'est un tout petit avion, mais sauf qu'il n'y a pas de pilote. Et puis, il y a un guidage inertiel, éventuellement GPS, que l'on voit ici, là. Et puis, une arme relativement faible. 200 km/h, 200, 220, 250. Ça explique en fait qu'ils ont mis 4 heures, 3h30, 4 heures pour traverser toute l'Irak en fait. Et alors ça c'est une chose aussi qui est importante pour bien comprendre la géopolitique, c'est que vous avez un passage nord, un passage central et un passage sud. Le passage nord c'est l'Irak, la Syrie et on redescend sur Israël. Le passage centre c'est on traverse tout l'Irak et on survole complètement la Jordanie, ce qui explique aussi certaines choses. Et la troisième chose, on passe par l'Irak et l'Arabie Saoudite.
D'accord. Ce sont ces mêmes drones que les Iraniens vendent aux Russes pour attaquer l'Ukraine. Hein.
Absolument, qui sont tirés tous les jours, quotidiennement, sur le territoire ukrainien.
Alors, Agnès Levallois, d'abord, cet après-midi, donc, le Benjamin Netanyahou réunissait son cabinet de guerre pour justement jauger quant à une éventuelle riposte, puisque comme le disait le général Patrick Dutartre, ça fait 45 ans qu'Israël n'avait pas été attaqué ainsi sur son territoire.
Enfin, c'est la première fois que l'Iran lance une attaque contre le territoire iranien. Et en ça, effectivement, c'est un fait tout à fait majeur, puisque jusque-là, quand l'Iran avait des comptes à régler, si je puis dire, avec Israël, ça passait par ce qu'on appelle des proxys, hein, des forces qui lui sont proches, mais ce qui lui évitait d'être directement impliqué, comme elle l'a fait donc samedi soir, et ce qui a provoqué la surprise chez certains, même si l'Iran avait annoncé qu'il ne resterait pas sans réponse. Ce que je rappelle que cette opération de la nuit de samedi à dimanche est en réaction à l'attaque menée par Israël contre le consulat iranien à Damas, en Syrie, et qui a provoqué la mort de 16 personnes, dont de hauts responsables des gardiens de la révolution, qui est vraiment l'armée de la révolution islamique. Et donc, pour les Iraniens, le fait que ces deux responsables soient touchés, d'autant plus qu'il y avait déjà eu une opération en décembre qui avait éliminé un autre haut responsable des gardiens de la révolution en Syrie, ça commençait à faire beaucoup, et que l'Iran a estimé que cette opération était suffisamment importante pour être obligé de répondre directement pour réinstituer une certaine dissuasion et pour surtout garder une certaine crédibilité vis-à-vis de ses alliés, vis-à-vis de toutes ces milices qui sont proches d'elle et qu'elle utilise en cas de besoin pour mener des opérations contre Israël ou contre les Américains en Irak. Hein. Et donc, les différents éléments et événements de ces derniers mois étaient suffisamment important aux yeux de l'Iran pour prendre le risque d'agir directement et avec les conséquences que ça peut avoir. Est-ce que Israël, du coup, réagira ou, comme l'espèrent les Iraniens, puisqu'un haut responsable iranien a décrété que c'était une riposte à cette attaque israélienne à Damas, dans le consulat iranien, et que donc on arrêtait les frais, si je puis dire, on arrêtait là, chacun avait mené son opération et on soldait tous les comptes. Mais on voit bien qu'Israël n'est pas dans cette logique pour l'instant.
Comment appréciez-vous la situation, Pierre Aski ? Est-ce qu'on est dans l'escalade et que Israël ne peut pas laisser impuni cette attaque iranienne, on le rappelle, 180 drones et 120 missiles qui ciblaient précisément le territoire israélien ?
Alors, les Israéliens sont confrontés à un dilemme terrible parce que d'un côté, ils ont les Américains qui leur disent « Vous avez réussi à construire une alliance, une coalition de pays qui vous ont aidé. Vous avez un succès militaire retentissant avec 99% de cette attaque qui a été repoussée. Ne gâchez pas ce moment positif pour vous dans un contexte où vous êtes plutôt décrié et isolé en prolongeant l'attaque et en procédant à une escalade. Parce que frapper l'Iran aujourd'hui, c'est entraîner une nouvelle riposte iranienne et on est dans une escalade dont on ne connaît pas la fin. Et de l'autre côté, les Israéliens entendent ça et ça parle à certaines personnes au sein du gouvernement israélien. Mais de l'autre côté, les Israéliens sont très attachés à ce qu'ils appellent leur dissuasion, c'est-à-dire la capacité de faire peur à l'autre, de lui faire comprendre que tout acte hostile aura un prix démesuré. C'est ce qui se passe à Gaza depuis 6 mois, où à la suite du 7 octobre, les Israéliens ont procédé à une riposte totalement disproportionnée pour infliger aux Palestiniens cette peur recommencer. Et là, on est dans la même logique. Et donc, il y a une partie d'Israël qui dit il faut rétablir cette dissuasion. Et donc, profitons-en d'une certaine manière, parce qu'il faut empêcher aussi l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Gros sujet qui obsède Netanyahou depuis des années. Il était contre l'accord nucléaire de 2015 et il s'était opposé au président Obama à l'époque sur ce sujet. Et il rêve depuis des années de pouvoir frapper les installations nucléaires iranienne. Il a procédé à des cyberattaques, à des sabotages, à des assassinats de scientifiques, mais là on parle d'un autre niveau. Et voilà, on a une guerre sous la main, profitons-en, c'est un peu la logique. Et donc le cabinet de guerre, il doit trancher entre ces deux options qui sont évidemment radicalement différentes. L'une, c'est on s'arrête et on profite d'un moment diplomatique positif pour Israël, notamment en liaison avec le monde arabe. Et de l'autre côté, on est dans la logique traditionnelle de la dissuasion. On va frapper fort l'adversaire pour qu'il comprenne qu'on ne s'amuse pas à nous envoyer 300 missiles et drones.
Qui décide dans un cabinet de guerre ? Est-ce que c'est Netanyahou tout seul ou est-ce qu'il y a un cabinet collégial ?
Ah non, c'est un groupe très intéressant, puisque vous avez d'un côté le gouvernement israélien dans lequel il y a l'extrême droite, il y a les alliés politiques de Netanyahou, mais ceux-là ne font pas partie du cabinet de guerre. Ouais. Le cabinet de guerre est un groupe beaucoup plus restreint dans lequel il y a Netanyahou, évidemment, il y a les militaires, le chef d'état-major, etc. Mais il y a aussi des personnalités extérieures, puisqu'il y a Benny Gantz, qui est le rival politique de Netanyahou. C'est-à-dire, s'il y avait des élections aujourd'hui, c'est Gantz qui serait élu à la place de Netanyahou. Mais Gantz, qui est un ancien chef d'état-major, donc qui a une expérience militaire très forte, et membre de ce cabinet de guerre avec le général Eisenkot, qui est aussi un ancien chef d'état-major. Donc on a des personnalités qui sont très diverses et les débats sont très difficiles. On a su il y a quelques semaines, c'est le général Eisenkot qui l'avait révélé, que le cabinet de guerre s'était opposé à une proposition de Netanyahou de lancer une frappe préventive au Liban contre le Hezbollah. Donc il y a une capacité à débattre et à prendre des décisions qui peuvent aller à l'encontre des demandes du Premier ministre.
Nicole Bacharan, on imagine que Netanyahou, il a aussi tient compte de ses opinions publiques avec des Israéliens alors qui ont eu le choc du 7 octobre et là qui se disent, eh bien nous voilà à la merci d'une pluie de missiles qui nous vient, qui nous tombe dessus de la part de ceux qui veulent notre mort, à savoir les Iraniens.
Oui, parce que personne n'oublie en Israël, et j'espère ailleurs non plus, que le projet de l'Iran, c'est d'anéantir Israël depuis la venue au pouvoir des Mollahs en 1979. Et c'est vrai que cette attaque de samedi, elle est colossale. Vous l'avez décrite, c'est l'équivalent en nombre de missiles et de projectiles de ce qui est tombé sur l'Ukraine dans les premiers jours de la guerre en février 2022, c'est-à-dire une attaque énorme contre un pays 20 fois plus petit que l'Ukraine. Alors c'est vrai, je sais qu'on en reparlera, que le système défensif et la coalition défensive a très bien fonctionné, mais il n'y a jamais rien de garanti là-dessus. Je veux dire, un missile balistique qui tombe sur un bâtiment, sur une mosquée, sur une synagogue, sur la Knesset, que sais-je, ça aurait été épouvantable. C'est pas parce qu'il y a une protection que les intentions ne sont pas meurtrières. Et c'est vrai qu'Israël est pris dans un dilemme, puisque les Américains leur rappellent, bon ben là vous avez éliminé un certain nombre de personnes au consulat iranien à Damas, le système défensif avec une vraie coalition qui vous a soutenu, protégé, a fonctionné, donc on peut considérer que c'est plutôt une victoire. Moi, je n'imagine pas que les Israéliens ne répliquent pas. Alors, les Américains leur ont dit, on vous protège, mais s'il y a réplique militaire, on ne participera pas. Anthony Blinken vient de dire aux Iraniens, attention, on est toujours avec, pour la défense, l'Israël. Donc, ils gardent quand même une certaine ambiguïté. Et le dilemme israélien, c'est vrai qu'ils doivent rétablir une dissuasion. Parce qu'on l'a souvent dit, les pays arabes, quand ils perdent une guerre, ils en ont perdu un certain nombre, ils se remettent en ordre de marche, ils attendent, ils se regroupent et ils se préparent pour la prochaine. Israël ne peut pas perdre une guerre. Il est entouré d'un certain nombre d'ennemis qui veulent l'élimination d'Israël et c'est un pays minuscule. Donc il a besoin d'une dissuasion. Quelle forme peut-elle prendre aujourd'hui? À la fois vis-à-vis de l'Iran directement pour des frappes similaires à celles qui ont eu lieu il y a deux jours. C'est pas évident parce que les Iraniens, Agnès l'a rappelé, disent oh « ben nous, c'est fini, on s'arrête là hein. ». C'est inacceptable. C'est absolument inacceptable qu'on les laisse dire quand est-ce qu'on arrête après cette démonstration, malgré tout, de force, même si elle n'a pas fait beaucoup de dégâts. Et la préoccupation israélienne en matière de dissuasion, elle est double, parce qu'il y a aussi derrière la menace nucléaire. Les missiles balistiques qui ont été lancés seraient potentiellement des missiles à charge nucléaire un jour, dont on ignore la date. Sachant que ces missiles balistiques lancés samedi, la moitié se sont crachés ou n'ont pas décollé, donc c'est pas totalement au point, mais enfin, ça n'est pas extrêmement rassurant. Et je termine là-dessus. Mais les Israéliens, ils ont quand même d'autres options que de bombarder Téhéran, si j'ose dire. C'est vraiment pas le sommet de leur programme. Il y a des répliques militaires, pas forcément sur l'Iran. Il y a la guerre cybernétique, il y a les assassinats ciblés, il y a l'espionnage, il y a le blocage d'installations militaires, nucléaires, iraniennes à distance. Il y a tout un tas de choses.
Moyens de répliquer.
Mais il y aura quelque chose.
Alors, le monde entier donc attend de connaître la réponse d'Israël, 48 heures après l'attaque inédite de l'Iran. En tout, plus de 300 drones et missiles ont été tirés sur l'État hébreu. La communauté internationale appelle à la désescalade. Pour la Maison-Blanche, les deux pays, Israël et Iran, sont désormais quittes. Sujet de Mathieu Lignot et Benoît Thiébaud.
Benjamin Netanyahou avec son conseil de guerre. Quelle va être sa réponse à l'Iran? La presse internationale se pose la question. avec un risque et un mot, l'escalade. Alors les réunions d'urgence se multiplient. L'ONU appelle au calme.
Le Moyen-Orient est au bord du gouffre. Les peuples de la région sont confrontés au danger réel d'un conflit dévastateur à grande échelle.
Samedi 23h, les départs de missiles iraniens illuminent et déchirent le ciel du Moyen-Orient. Les gardiens de la Révolution lancent 170 drones kamikazes, des missiles de croisière et balistiques depuis l'Iran même. C'est une première historique. S'ajoutent des tirs depuis l'Irak, le Yémen et le Liban. Tous visent Israël. La République islamique explique qu'il s'agit de représailles. Il y a 2 semaines, son consulat à Damas a été bombardé. L'opération militaire est fêtée dans les rues de Téhéran.
Nous espérons que cette attaque continuera jusqu'à détruire Israël.
Bien sûr, Israël va répondre à cette attaque. Et quelle que soit la réaction qu'ils auront, nos courageux gardiens de la révolution anticiperont ces réactions.
Alerte en Israël. Des projectiles survolent ici Jérusalem. Et le dôme du rocher, tout un symbole. Pour se protéger, Israël déploie sa défense antimissile et son dôme de fer.
Nous nous défendrons contre toute menace et le ferons avec sang-froid et détermination.
Selon Tsahal, 99% des armes iraniennes auraient été abattues sans toucher leur cible. Certains drones et missiles ont été détruits en Jordanie par des chasseurs israéliens, jordaniens, britanniques, français et américains. Joe Biden n'a pas encore pris publiquement la parole, mais il diffuse cette image de félicitations à ses pilotes.
Vous avez fait une énorme différence en sauvant potentiellement beaucoup de vies. Grâce à votre talent extraordinaire, les États-Unis ont aidé Israël à détruire presque tous ses missiles entrants.
Les frappes blessent gravement une fillette de 7 ans. Des missiles ont également touché la base aérienne de Nevatim. Les responsables israéliens appellent à une coalition contre l'Iran.
Nous avons l'opportunité d'établir une alliance stratégique contre cette grave menace de l'Iran qui veut développer son programme nucléaire sur ses missiles. Cela pourrait constituer une menace extrêmement grave. Les États-Unis, Israël et leurs alliés se tiennent côte à côte pour se défendre.
Mais les États-Unis ne participeront pas à une riposte israélienne sur l'Iran. Joe Biden l'aurait annoncé à Netanyahou hier.
Le président a été clair, nous ne voulons pas d'escalade, nous ne voulons pas d'une guerre étendue avec l'Iran.
Et les Iraniens le savent. Téhéran a même prévenu à l'avance les Américains de leur plan d'attaque. L'Iran considère que son opération est maintenant terminée.
Les pays occidentaux devraient apprécier la retenue et les actions responsables de la République islamique d'Iran en faveur de la stabilité et de la sécurité de la région.
L'Iran tente de transformer son échec militaire en succès politique. Les autorités israéliennes continuent d'envisager toutes les options.
Général Patrick Dutarte, c'est vrai qu'échec militaire de l'Iran, parce qu'on est surpris par le fameux dôme de fer des Israéliens, alors qu'on appelle dôme de fer, hein, qui a permis d'intercepter, de neutraliser 99% des projectiles lancés par les Iraniens.
Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Le dôme de fer a terminé le travail. Tout le travail avant était fait par des chasseurs occidentaux, éventuellement également des chasseurs israéliens, des missiles solaires qui ont permis déjà d'intercepter ça, voire des patriotes dans certains endroits.
Donc ce sont des missiles antimissiles qui vont détruire les missiles.
Absolument, notamment les missiles balistiques, mais également les cruise missiles, enfin les missiles de croisière. S'agissant des drones, alors le dôme de fer proprement dit, c'est la dernière couverture en fait. C'est la couverture rapprochée, c'est quoi? Ce sont des petites batteries qui comprennent tous une vingtaine de missiles, mais des petits missiles qui font 3 mètres de long, 90 kilos, c'est pas gros, qui ont été conçus essentiellement pour intercepter des roquettes. les roquettes qui venaient du Liban et ou qui venaient éventuellement des territoires palestiniens. Et alors, c'est à haute fréquence, ils sont extrêmement performants, mais c'est vraiment maximum 50 km et encore de portée, alors que la plupart des missiles iraniens ont été détruits avant, en fait.
Quand on dit que la France a participé à la neutralisation de ces missiles israéliens, iraniens, oui. C'était donc à bord des chasseurs Rafale avec...
L'armée n'a pas exprimé clairement là-dessus, mais il y a les chasseurs, les Rafales, qui peuvent faire le job, comme les chasseurs israéliens ou les chasseurs américains. Les missiles solaires aussi, qu'on a, ne serait-ce que pour protéger nos bases aériennes.
Hein. La France est à la... Est-ce que les missiles antimissiles français sont d'égale qualité que ceux que détiennent les Américains?
Ils n'ont pas la performance des Patriotes, mais on a quand même des Astères qui sont entre les deux, si vous voulez, entre des courtes portées, 40 à 50 km, voire jusqu'à 100 km, qui ont une certaine capacité antibalistique, mais mesurée par rapport à l'efficacité des derniers Patriotes. Par contre, on a toute une batterie de missiles solaires de courte portée, hein, des petits missiles Mistral, on a des missiles solaires type Mika, et RR aussi Mika, qui font très très bien le travail, mais qui sont coûteux, bien sûr.
Alors justement, est-ce qu'il y a une question d'asymétrie dans le coût? On dit que ce samedi soir, Israël a dépensé 1 milliard de dollars pour anéantir cette attaque iranienne. Est-ce que c'est démesuré par rapport au coût des projectiles iraniens?
Ah oui, c'est vrai que la facture est chère, mais des deux côtés, hein, parce que pour les Iraniens aussi, ça leur coûte cher, en fait, cette attaque. Mais c'est vrai que, généralement, les missiles de défense, je veux dire, sont beaucoup plus coûteux.
Coûtent plus cher que les missiles d'attaque.
Bien sûr. Enfin, surtout que ces petits missiles d'attaque. Les missiles balistiques sont beaucoup plus chers, évidemment. C'est pas la même technologie. Mais ce qui est intéressant, c'est toute la séquence. Et ce qui a permis, si vous voulez, d'avoir une défense, c'est surtout les 1000 kilomètres qui séparent l'Iran d'Israël, et puis le préavis, quoi, 4 heures avec toutes les menaces d'alerte, les renseignements américains. Je vous rappelle que le général américain qui défend la zone, en fait, et surtout qui patronne la coalition anti-Daesh, parce qu'on oublie quelque part que si les chasseurs français sont là, les chasseurs britanniques et la plupart des chasseurs américains, c'est surtout contre le terrorisme islamique.
Contre, hein, Daesh.
La lutte contre Daesh, hein, et pour l'opération Chamal, ça fait presque une dizaine d'années maintenant qu'on est là-bas.
Agnès Levallois, question de Michel en Belgique. Cette attaque iranienne vouée à l'échec, affirme Michel, n'était-elle pas uniquement destinée à calmer le peuple iranien? D'autant que on est surpris, on a l'impression que les Iraniens ont quasiment prévenu les Israéliens de leur attaque.
Alors, je ne crois pas que ce soit destiné à calmer la population. Une partie de la population iranienne, effectivement, on a vu dans votre reportage, a applaudi, mais une autre partie de la population iranienne n'est pas du tout en faveur de cette escalade militaire, sachant que le risque pour la population iranienne, s'il y a une riposte israélienne, peut être très très lourd dans un pays qui est déjà quand même en extrême difficulté économique, sociale, avec une contestation qui existe. Donc je ne crois pas du tout que cette opération, alors que qu'il y ait cette idée de ressouder les rangs en Iran, ça peut être un objectif, mais je crois que dans cette opération, ce n'était pas le premier objectif des autorités iraniennes. Les autorités iraniennes voulaient vraiment montrer qu'il fallait qu'à un moment, elles soient en accord entre le discours tenu et la réalité. C'est-à-dire qu'on a vu depuis le 7 octobre que l'Iran n'est pas intervenu directement, n'a pas déclaré, d'ailleurs le secrétaire d'État américain a même déclaré très vite après les attaques du 7 octobre qu'on ne savait pas du tout, qu'il n'avait aucun élément prouvant que l'Iran était impliqué dans ces attaques, alors que tout de suite certains ont mis ça en avant. Et l'Iran n'est pas intervenue, elle est intervenue en soutien en disant qu'elle soutenait le Hamas, mais elle n'est pas intervenue directement. Elle a utilisé ses proxys, hein, donc un ensemble de milices dont le Hezbollah, les Houthis au Yémen, pour attaquer des intérêts israélien, mais il était hors de question pour l'Iran d'attaquer directement. Mais à force de faire des déclarations de soutien et de dire qu'il faut, à partir du moment où vous avez ces attaques contre des hauts responsables iraniens, ces opérations menées par Israël, il y a un moment où si l'Iran veut continuer à être crédible, il faut quand même que ces actes soient en accord avec les propos qui ont été tenus de se dire de cette défense des Palestiniens, mais aussi contre Israël. Donc je crois que c'était vraiment la crédibilité de l'Iran qui était en jeu après l'attaque du consulat iranien à Damas et que Téhéran avait vraiment besoin de dire à ses alliés, à ceux avec qui elle travaille dans la région, eh bien qu'elle avait une parole qui était encore crédible. Sinon, les critiques, là, pour le coup, pouvaient se faire de plus en plus fortes à son égard. Et c'est pour ça que, moi, je trouve, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nicole Bacharan, je trouve que la réaction iranienne a été relativement mesurée avec ce délai, justement, de prévention, de dire, pour que le système se mette en place et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de victimes. Et effectivement, apparemment, il y a cette petite fille qui est absolument dramatique, mais quand on voit 300 drones et missiles, on pourrait s'attendre à un désastre bien plus grand. Que l'Iran n'a, moi, je crois vraiment que l'Iran n'a pas voulu prendre ce risque pour ne pas rentrer.
Ça a été calibré pour ne pas faire de bons
dégâts.
Moi,
c'est vraiment l'impression que j'ai dans l'analyse que je peux faire de la stratégie iranienne, de la façon dont l'Iran se comporte, pas simplement depuis le 7 octobre, mais d'une façon générale. On a des autorités iraniennes qui sont très calculateurs. N'oubliez pas, on dit toujours la même chose, des joueurs d'échecs qui savent très bien là où ils doivent aller, jusqu'où ils peuvent aller. Parce que la pire des choses pour l'Iran, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est qu'Israël attaque et attaque ses infrastructures nucléaires et qui lui ferait perdre absolument tout l'avantage que l'Iran a accumulé ces dernières années, puisque je rappelle qu'après la sortie des Américains du fameux accord sur le nucléaire, eh bien, les Iraniens se sont sentis libérés des engagements qu'ils avaient pris, parce qu'ils avaient respecté entre 2015 et 2018 complètement l'accord sur le nucléaire. Une fois que Trump décide d'en sortir, les Iraniens estiment qu'ils ne sont plus tenus par cet accord, donc ils reprennent l'enrichissement. Donc aujourd'hui, s'ils vont trop loin, le risque est effectivement qu'Israël attaque et fasse perdre à l'Iran tout cet acquis qui lui permet de pouvoir jouer une position dissuasive qui est aussi son objectif. Donc je trouve que moi, que cette réaction iranienne a été relativement bien calculée pour affirmer une puissance régionale, parce que c'est quand même ce que l'Iran souhaite, mais sans aller trop loin pour ne pas avoir cette réaction, cette riposte israélienne et éventuellement accompagnée par les Américains de la sorte.
Pierre Aski, est-ce qu'elle est là la clé ? D'ailleurs, les Iraniens eux-mêmes disent les Occidentaux devraient apprécier la retenue de l'Iran. Et est-ce qu'à l'inverse, c'est parce qu'ils terrorisent les Israéliens que l'Iran détienne l'arme nucléaire et au fond que les Israéliens seraient prêts à n'importe quel prétexte, comme aller chercher des noises en bombardant ce consulat de Damas, pour aller au contact et défaire ses travaux sur le nucléaire iranien.
Oui, je pense que c'est évident. Et d'une certaine manière, si on élargit le débat, la clé, c'est que est-ce que on peut permettre à l'Iran de devenir la principale puissance régionale ? Et c'est ce qui explique aussi l'attitude des pays arabes dans cette crise. Parce qu'on a, des pays, c'est très intéressant ce qui s'est passé, un pays comme la Jordanie, extrêmement critique vis-à-vis de la politique israélienne à Gaza. Le roi Abdallah est marié à une Palestinienne, la reine Rania. Il y a la moitié de la population jordanienne est palestinienne. Il y a eu des rassemblements énormes, etc. Et pourtant, lorsque l'Iran tire ses missiles, l'armée jordanienne entre en lice pour stopper un certain nombre de ces milices, autorise les Américains, les Israéliens, les Français à agir dans son espace aérien.
La Jordanie, pays arabe, finalement, a défendu Israël samedi soir.
Voilà. Officiellement, c'était pour défendre son espace aérien. Effectivement, un pays souverain ne peut pas tolérer que son espace aérien soit traversé par des missiles d'un pays qui veut attaquer un autre. De l'autre côté, c'est pas très acceptable. Mais le message subliminal, il est quand même que la Jordanie a défendu Israël face à l'Iran. Et d'ailleurs, l'Iran a ciblé dans ses attaques verbales la Jordanie en disant, en gros, vous le payerez. Et ça, c'est le pays qui a officiellement montré son accord. On a aussi, et c'est le Wall Street Journal qui raconte ça aujourd'hui avec des confidences américaines, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont fait un partage d'informations, ont mis leurs données radar
avec
les Américains et donc indirectement aux Israéliens. Mais on est dans une logique qui est en cours depuis plusieurs années. En 2022, donc il y a déjà 2 ans, les Américains avaient organisé à Sharm el-Sheikh, en Égypte, une réunion militaire où il y avait les Israéliens, les Américains,
les Saoudiens qui n'avaient pas encore signé les accords d'Abraham et qui ne les ont toujours pas signés, les Émirats qui ont signé les accords d'Abraham, l'Égypte et le Qatar qui pourtant n'est pas du tout dans cette logique de rapprochement avec Israël. Et donc ces pays ont participé à cette réunion sous l'égide américaine dans le but de mettre en place une sorte d'alliance informelle, parce que l'idée, il y a eu un moment l'idée d'un OTAN moyen-oriental, je pense qu'elle est abandonnée, personne n'a envie de rentrer dans une structure formelle. Mais une alliance informelle de partage d'informations et d'intérêts communs face à l'Iran. Parce que ces pays, l'Arabie Saoudite, les Émirats, même s'ils ne veulent pas de confrontation avec l'Iran, ne veulent pas laisser l'Iran devenir la puissance hégémonique de la région. Et en particulier la puissance nucléaire hégémonique de la région. Et donc on a un intérêt commun dans lequel les Palestiniens sont la variable d'ajustement qu'on oublie, il faut bien le reconnaître. Et lorsque le ton monte avec l'Iran, ces pays savent que leur intérêt, il est aujourd'hui d'être avec les Américains qui ont montré dans cette crise qu'ils avaient une capacité politique et militaire très forte. Et ils ont été au rendez-vous. Je pense que c'est aussi le message qu'a voulu donner Joe Biden. Et de l'autre côté, leur intérêt est de s'allier de manière informelle avec Israël.
Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, juste une petite précision, que l'Arabie Saoudite avait engagé ce rapprochement avec l'Iran. Je rappelle qu'il y a eu cette cérémonie de rapprochement, puisque l'Arabie Saoudite préférait effectivement négocier avec l'Iran pour éviter que l'Iran soit la puissance régionale, parce que l'Arabie Saoudite considère qu'il y a deux pays qui peuvent jouer ce rôle de puissance régionale et puis de permettre de trouver une certaine stabilité, c'est dans le cadre d'une entente entre Téhéran et Riyad. Et que donc, le 7 octobre a fait voler en éclats cette préoccupation saoudienne qui était de se dire, les Américains regardent un peu ailleurs, on peut moins compter sur eux, et donc si on veut assurer la stabilité régionale, et que moi, Arabie Saoudite, sous l'impulsion de ce jeune prince très ambitieux, si je veux avoir une place dans cette recomposition de sécurité régionale, eh bien j'ai tout intérêt à me rapprocher et à négocier avec l'Iran, et ce qui me permettra d'occuper ma place et de ne pas laisser l'Iran tout seul.
Alors, la Jordanie, samedi soir, a participé à l'opération visant à neutraliser les missiles iraniens, ainsi que la France. Emmanuel Macron, ce matin, sur RMC, a justifié la participation de la France à cette opération. On écoute le chef de l'État.
Nous avons une base aérienne en Jordanie pour lutter contre le terrorisme. Et donc, l'espace aérien jordanien a été violé par ces tirs. Nous avons fait décoller nos avions et nous avons intercepté ce que nous devions intercepter.
Qui attaque qui ?
Aujourd'hui, Israël se protège. Et le fait générateur de cette situation d'ensemble, c'est l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre dernier.
Alors, Nicole Bacharan, on sent que le chef de l'État, il va tout en douceur en disant nous ne défendons pas Israël, nous défendons la Jordanie.
Oui, on a presque envie de lui dire, c'est mignon, c'est bien essayé, ouais. Mais de facto...
Ça a ressoudé l'Occident.
Voilà, comme la Jordanie a protégé son espace aérien, elle a également protégé Israël, et la France a protégé les militaires français et les installations qui sont dans la région, et elle a de fait protégé Israël. Et c'est vrai que quand on pense à l'attaque iranienne calibrée ou finement calibrée, si elle a été finement calibrée, ça veut dire qu'ils ont diablement confiance dans les défenses de l'entière coalition, qui n'est pas une coalition formelle, qui est un peu ad hoc, pour penser que bon, on les prévient 4 heures avant, il n'y a rien qui passera, et ça ne fera pas trop de dégâts, et comme ça on pourra s'arrêter là. Je trouve ça un peu extrême comme calcul. En fait, la clé de cette coalition qui n'est pas une alliance mais qui s'est manifestée pour protéger Israël, de facto, samedi dernier, c'est ce sur à quoi les Américains travaillent constamment et qui est l'interopérabilité. C'est la grande passion de toute alliance, forcément, que les systèmes, c'est extrêmement important au sein de l'OTAN, que tous les systèmes des différents pays puissent fonctionner ensemble. Et ça fait, Pierre mentionnait la réunion de 2022 à Sharm el-Sheikh, mais bien avant déjà, les Américains ont travaillé, continuent à travailler à cette interopérabilité entre certains systèmes américains, israéliens et celle des pays sunnites de la région. Et n'oublions pas que la grande division face à l'Iran, c'est l'Iran chiite face à tous ces pays sunnites qui se haïssent et qui a les, ces pays sunnites qui haïssent, je crois, peut-être davantage encore l'Iran qu'Israël. Parce qu'au fond, Israël ne les menace pas. L'Arabie saoudite n'a pas peur d'Israël, alors que l'Iran peut très bien être une menace redoutable pour l'Arabie saoudite. Donc cette question de l'interopérabilité...
Parce que l'Iran n'est pas un pays arabe, c'est un pays perse.
C'est un pays perse et chiite.
C'est un pays chiite, qui n'est donc pas sunnite. Et c'est un pays qui, comme le disait Pierre Aski, fait peur parce qu'il va avoir l'arme nucléaire et donc ce sera... Le parrain de la région.
Et c'est un pays expansionniste. Il a des tentacules, en quelque sorte, avec le Hezbollah, avec ses milices en Irak, en Syrie, avec évidemment le Hamas, même si le Hamas n'est pas chiite. Ce sont des sunnites, mais enfin, par opportunisme, ils fonctionnent très souvent en accord avec l'Iran. Donc les autres pays de la région... que l'on qualifie souvent de modérés, je dirais que bon, sur le plan politique, c'est pas forcément ça, mais en même temps, nettement moins agressifs que l'Iran, ils aimeraient bien, à l'occasion notamment de leur conduite de samedi dernier, ils aimeraient bien bénéficier de la même protection aérienne, en particulier, qu'Israël, face à l'Iran, que ce soit de la part des Américains essentiellement, et en coalition, même informelle, avec les autres pays sunnites de la région.
Alors, comment les alliés d'Israël et de l'Iran prennent-ils position face au risque d'embrasement au Proche-Orient ? Hier, les membres du G7 se sont réunis en urgence pour condamner l'attaque iranienne. Les pays du Golfe, eux, se sont fait plus discrets. Sujet de Romain Besnenou et Christophe Roquet.
Appel au calme et condamnation unanime de l'attaque iranienne. Communiqué des membres du G7 hier après leur sommet exceptionnel en visioconférence, États-Unis et Royaume-Uni se félicitent même d'avoir activement participé à la défense de l'État hébreu.
Je peux confirmer que nos avions ont abattu un certain nombre de drones d'attaque iraniens et je veux rendre hommage à la bravoure et au professionnalisme de nos pilotes qui volent au-devant du danger pour protéger les civils.
Des alliés qui assument et d'autres plus mesurés. Le Quai d'Orsay nuance son rôle dans les événements de samedi soir et justifie son action par la défense de ses propres intérêts.
Nous avons pris nos responsabilités parce que nous sommes acteurs de la sécurité régionale. Nous avons des bases en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis notamment, et l'attaque iranienne ne mettait pas que en cause Israël, mais également porter atteinte à la sécurité de nos forces.
Confirmation ce matin du président de la République, la médiation plutôt que le conflit armé.
À la demande de la Jordanie, nous avons eu des interceptions en stricte protection et défense à faire dans cette nuit, en effet, de samedi. Mais donc nous avons condamné, nous sommes intervenus et aujourd'hui nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade.
La Jordanie. C'est depuis ce pays situé entre l'Iran et Israël que l'armée française aurait donc intercepté plusieurs projectiles, comme ces drones et missiles, qui ont illuminé le ciel d'Amman samedi soir. Le royaume sunnite a indirectement contribué à la défense d'Israël, alors que sa population soutient massivement le peuple palestinien. La crainte du voisin chiite iranien l'a emporté.
Nous demandons à toutes les parties de garder leur sang-froid et d'agir avec discipline et responsabilité au regard des tensions qui s'exercent dans la région. Nous ne pouvons pas aller vers l'escalade qui serait sans aucun doute un chemin très dangereux.
Tiraillée aussi, l'Arabie saoudite. Ennemi historique de l'Iran, les deux puissances ont annoncé leur réconciliation l'année dernière malgré le rapprochement des Saoudiens avec Israël. Le pari est donc double pour Riyad et très risqué. Mise en garde du président iranien en novembre dernier en Arabie saoudite devant la Ligue arabe.
Les pays islamiques doivent couper toute forme de relations politiques ou économiques avec le régime sioniste. Les gouvernements islamiques devraient désigner l'armée du régime occupant et agresseur comme une organisation terroriste.
Alors, sur qui l'Iran peut-il réellement compter ? La Chine et la Russie, unis contre la domination américaine. Ce nouvel axe du mal, comme certains l'appellent, aime les démonstrations de force, comme en mars dernier dans le golfe d'Oman, lors de cet exercice militaire conjoint. Une alliance anti-occidentale qui repose sur une idéologie commune, mais aussi sur une économie, un triangle commercial. La Chine achète à bas coût le pétrole russe et iranien, qui en échange profite des investissements massifs de Pékin. Et la Russie achète des armes à l'Iran, notamment des drones, pour sa guerre en Ukraine.
Nos relations se développent très bien et je vous prie de transmettre mes meilleurs voeux à votre dirigeant Khamenei.
Nos négociations peuvent certainement contribuer à développer encore plus de domaines et de capacités de coopération entre nos deux pays.
Alliés ou adversaires de l'Iran, un point commun entre tous ces acteurs régionaux et internationaux, aucun n'a intérêt à l'escalade militaire au Proche-Orient, en tout cas pour l'instant.
Général Dutartre, un mot avant de revenir sur les alliances de l'Iran. Quand Emmanuel Macron parle d'interception en protection et défense de l'armée française en Jordanie, ça veut dire quoi, ça, pour un pilote d'avion de chasse? Ça veut dire qu'il décolle et son rôle va être de détruire un missile qui va à combien de milliers de kilomètres heure?
Il y a toutes sortes. Si c'est un missile de croisière, il peut aller jusqu'à 800-850 km/h. Et si c'est un drone, c'est 200-250 km/h. Donc c'est des vitesses très très variables. Et en fait, les modes de tir sont différents. N'oublions pas que c'est en pleine nuit aussi. Hein. Les drones, ils n'ont pas leur lumière qui est allumée en disant les gars, je suis là. Hein. Il faut les intercepter, il faut les détecter au radar quand même. Et puis après, les intercepter dans votre conduite de tir, soit au canon, soit au missile RR. Et puis, vous avez aussi la défense solaire. Donc, l'armée de l'air n'a pas trop communiqué là-dessus. Enfin, le ministère de la Défense n'a pas donné de détails. Mais voilà un peu les modes opératoires. C'est plus facile de jour, mais de nuit...
C'est visuel ou on détecte la chaleur du...
Il y a toutes sortes de détections. Hein, détection, radar. Bien sûr, visuelle, détection radar, électromagnétique et détection infrarouge.
Agnès Levallois, question d'Alain dans les Bouches-du-Rhône. Comment le monde arabe, très majoritairement sunnite, considère-t-il l'agressivité de l'Iran chiite à l'égard d'Israël?
Alors là, il faut vraiment distinguer entre les régimes, les pouvoirs et les opinions publiques. Depuis le 7 octobre et depuis le massacre du 7 octobre et la riposte israélienne, il y a ce fossé qu'on a déjà vu dans les années précédentes, mais qui s'est vraiment renforcé, avec d'un côté les régimes qui ont très peur, en tout cas qui s'inquiètent de ce que fait l'Iran dans la région, et qui peut tout à fait s'accommoder de la volonté d'Israël de réduire la capacité de nuisance que représente l'Iran, et les opinions publiques qui estiment, elles, que l'Iran est le dernier pays, finalement, qui continue à soutenir la cause palestinienne en soutenant le Hamas et en soutenant la situation dans les territoires palestiniens, et qui, donc, là, eux, considèrent que cette opération menée par l'Iran, eh bien, est un moyen de mettre en difficulté Israël, même si dans les conséquences, on voit bien que ça n'a pas été le cas. Et ça permet pour l'opinion publique de se dire que, eh bien, il faut absolument quand même que quelqu'un dans la région continue à soutenir les Palestiniens.
Donc, alors, typiquement, le roi de Jordanie se met en difficulté rapport à son peuple.
Absolument.
Qui n'apprécie que moyennement. D'aller contrer les offensives iraniennes.
Bien sûr, la population jordanienne, et Pierre l'a rappelé tout à l'heure, hein, est majoritairement palestinienne. Donc la sensibilité à la situation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza est extrêmement forte. Et donc de voir le roi Abdallah II permettre la destruction des missiles et de participer à la défense d'Israël pose problème, mais ça n'est pas spécifique à la Jordanie. Tous les pays de la région, on assiste à cet écart, mais ce n'est pas récent, ça, c'est le cas depuis très longtemps, entre les pouvoirs qui, eux, effectivement, veulent une stabilité. On revient à ce qu'on dit sur les pays du Golfe, l'Arabie. La pire chose pour l'Arabie saoudite, ça a été le 7 octobre, parce que MBS, son seul rêve, c'est d'avoir une économie florissante. Pour ça, il y a besoin de stabilité pour que les investisseurs viennent. Et donc, ce 7 octobre a mis en difficulté tous ces projets. Donc, lui, MBS, si l'Iran est affaibli dans ce contexte, ça lui va très très bien. Mais les opinions publiques, elles, sont quand même beaucoup plus en soutien à ce que peut faire l'Iran, parce que l'Iran est le dernier pays arabe, le dernier pays de la région, pas arabe justement, qui soutient et qui a remis cette cause palestinienne, même si ça la remet de la pire façon sur le devant de la table et que ça peut au contraire complètement à terme aller à l'encontre des intérêts des Palestiniens.
Alors les alliés de l'Iran, qui sont-ils? Pierre Aski, Romain Bestenou, dans son sujet, parlait de la Russie et de la Chine. Quelle est la profondeur de cette alliance? Dimitri Peskov, le porte-parole russe, dit « Nous appelons tous les pays de la région à faire preuve de retenue ». C'est-à-dire que, bon, on n'a pas l'impression qu'il prenait fait et cause pour l'Iran à la lecture de ce communiqué.
Oui, moi je pense qu'il faut faire attention à la lecture un peu rapide du côté axe du mal, Téhéran, Moscou, Pékin. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a aujourd'hui un effet d'opportunité formidable pour ces pays, en particulier pour Vladimir Poutine. Il fait oublier l'Ukraine et aussi bien Moscou que Pékin. En gros, ils voient de l'eau à leur moulin en direction des pays du Sud, sur les deux poids deux mesures, sur les Occidentaux qui prétendent défendre la liberté puis qui laissent écraser les Palestiniens. Donc vous avez cet effet d'opportunité, d'affaiblissement de l'Occident qui arrange la Chine et la Russie. Après, il y a des alliances ponctuelles. Très pragmatique. Lorsque les Russes ont besoin d'armement, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont capables de les leur donner. Il y a l'Iran et la Corée du Nord, qui sont soumis à des sanctions internationales comme la Russie aujourd'hui. Et donc c'est l'alliance des parias, donc ça ne pose pas de problème. Et la Chine achète du pétrole à l'Iran. Mais je pense que si demain il y avait une confrontation généralisée, il n'est pas certain, et même loin d'être certain, que la Russie et surtout la Chine se rangent du côté de l'Iran. Je pense que la Chine en particulier n'a aucune envie de voir une guerre généralisée dans cette partie du monde. Ça ne fait pas l'affaire de son économie qui dépend de la circulation des biens et de la mondialisation.
Le canal de Suez qui est régulièrement pilonné par les Houthis, elle voit ça d'un mauvais œil, la Chine ?
Alors, il y a eu un petit débat en Chine même, d'ailleurs, parmi les experts sur ce sujet, parce que qu'est-ce qui passe par ce canal de Suez ?
Des marchandises
chinoises. Or, la Chine n'a pas levé le petit doigt pour défendre la liberté de navigation. Elle n'a pas fait pression sur l'Iran pour qu'elle intervienne auprès des Houthis. Alors que l'Inde, par exemple, a envoyé sa marine. Et l'Inde a été très active dans la défense de la liberté de navigation. Et donc, la Chine, elle a toujours un équilibre entre l'idéologie et l'intérêt économique. Pour l'instant, l'idéologie a primé et donc l'opportunité d'affaiblir l'Occident. Si demain, on passait à des choses beaucoup plus sérieuses, il ne faut pas oublier quand même, il y a une histoire récente. Vladimir Poutine était le meilleur ami de Benjamin Netanyahou il y a encore quelques mois. Ils avaient des relations, y compris après l'invasion de l'Ukraine, qui ont été très denses. Et la Chine a des relations économiques très poussées avec Israël. Il y a des investissements chinois. La technologie israélienne intéresse au premier plan, au premier chef, les Chinois. Donc tout ça est loin d'être en noir et blanc. Et je pense qu'il faut faire très attention à ne pas placer des schémas de guerre froide classique dans cette situation qui est...
L'Iran est assez seul, à vous comprendre.
L'Iran n'est pas totalement seul, mais il a, parce qu'il sait, l'Iran sait vivre en isolement. L'Iran est soumis à des sanctions depuis tellement longtemps que l'Iran a appris à survivre, à naviguer, à exporter son pétrole, à trouver ses matières premières, ses pièces pour fabriquer les missiles et les drones qu'on a vus à l'œuvre. Il faut quand même être capable d'être dans des circuits commerciaux. Tout ça, ça montre que l'Iran n'est pas totalement isolé. Mais le soutien qu'il a de la Chine et de la Russie, je pense, a des limites.
Nicole Bacharan, est-ce qu'à l'inverse, l'Occident s'est retrouvé ? On a vu les membres du G7 à l'unisson ce week-end suite à cette attaque iranienne. Est-ce que ça a ressoudé l'Occident ?
Oui, au moins temporairement. Je ne pense pas que cette alliance défensive, enfin cette coalition défensive autour d'Israël soit forcément d'une solidité extrême, surtout si on inclut dans cet Occident d'une nuit l'Arabie Saoudite, les Émirats ou la Jordanie. Mais néanmoins, c'est une réalité. Ces pays-là ont bien dû regarder en face qu'ils avaient des ennemis. Et autant Pierre a tout à fait raison de souligner les différences multiples entre la Chine, la Russie, l'Iran et même à certains égards la Turquie, autant il y a des vrais points de vue communs qui sont une forme de haine de l'Occident. Ça, sans aucun doute, ça les réunit. Je pense que pour la Chine ou la Russie, Israël, c'est en effet pas fondamental, mais en guerre contre l'Occident, c'est quand même assez fondamental. Et ces pays, ce sont des anciens empires, et des empires qui ont la nostalgie impériale, c'est le moins qu'on puisse en dire. On le voit avec la Russie, c'est également le cas de la Chine, hein, en mer de Chine, à Taïwan, ou autour de Taïwan, on le voit. C'est le cas de la Turquie, qui ne s'est pas trop manifestée depuis samedi, mais qui néanmoins avait applaudi après les massacres ignobles du 7 octobre, dans les qualifiant d'actes de résistance, je crois. Et évidemment, c'est le cas de l'Iran. L'Iran n'est pas un pays arabe, en effet, c'est un pays perse, un ancien grand empire perse, et donc un pays, en ce moment en tout cas, par nature expansionniste, qui fait peur à ses voisins. Donc tout à coup, les pays qui n'ont pas de visée expansionniste et les occidentaux se retrouvent au moins quelque temps dans le même bateau.
Alors, cette attaque iranienne ne change rien, en revanche, quant à la volonté d'Israël de détruire le Hamas. L'armée israélienne se tient toujours prête à lancer une offensive terrestre dans la ville de Rafah, et ce, malgré la catastrophe humanitaire en cours. Du côté de la Cisjordanie, de nouvelles violences ont éclaté après le meurtre d'un jeune berger israélien près de Ramallah. Sujet de Léa Dermidjian et Michel Bouilly.
Un regain de violence en Cisjordanie. Des colons israéliens attaquent des villages palestiniens. Des représailles. Quelques heures plus tôt, un jeune berger israélien de 14 ans a été tué. Tout le week-end, une dizaine de villages ont été bouclés par l'armée israélienne. Les affrontements avec les colons font un mort côté palestinien, 18 blessés.
Regardez, nous étions à l'intérieur de la maison et à la table du déjeuner lorsque nous avons été exposés aux tirs, aux obus et aux pierres.
L'armée israélienne dénonce le meurtre du jeune berger.
Benjamin a été assassiné lors d'un attentat terroriste. Les forces de sécurité poursuivent leur enquête sur l'incident. Les forces de l'armée israélienne, du Shin Bet et de la police israélienne mènent une chasse à l'homme pour retrouver les terroristes.
La violence dans les territoires palestiniens et la guerre, encore et toujours à Gaza. À Rafah, dans l'hôpital Al-Najjar, les familles palestiniennes pleurent les victimes qui arrivent par dizaines. Selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 33 700 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Et la population est épuisée.
Nous demandons au Hamas et à Israël de conclure un accord, de faire un compromis, afin que nous et Israël puissions vivre en paix. Nous voulons du dialogue.
Après plus de 6 mois de guerre, la population gazaoui voit l'espoir d'une trêve s'éloigner. Des habitants déplacés, entassés dans des abris. L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes, par les airs comme ici au-dessus de Rafah. Ou par la route. Mardi dernier, Israël a déclaré que 468 camions d'aide ont été admis à Gaza, le nombre le plus élevé depuis le début de la guerre. Mais pour les organisations humanitaires, ces efforts sont insuffisants.
350 000 enfants de moins de 5 ans risquent de mourir de faim à l'heure actuelle. Le monde regarde se dérouler une famine provoquée par l'homme. La faim dans le nord est particulièrement préoccupante. Les gens sont désormais amenés à manger de la nourriture pour animaux ou des feuilles d'arbres.
Alors que Benjamin Netanyahou brandit la menace d'une offensive terrestre à Rafah, les États-Unis rappellent à l'ordre leur allié.
Nous avons clairement fait savoir à Israël que nous pensions qu'une invasion militaire massive de Rafah aurait un effet extrêmement néfaste sur ces civils et qu'elle nuirait en fin de compte à la sécurité d'Israël. Il ne s'agit donc pas seulement pour Israël de nous présenter un plan. Nous lui avons clairement fait savoir que nous pensions qu'il existait un meilleur moyen d'atteindre leur objectif légitime, à savoir dégrader, démanteler et vaincre les bataillons du Hamas qui se trouvent encore à Rafah.
Selon l'armée israélienne, c'est à Rafah que les otages israéliens seraient retenus par le Hamas. Rafah, où près d'1,5 million de Palestiniens sont réfugiés.
Agnès Levallois, ça veut dire que Benjamin Netanyahou a toujours dans l'idée d'intervenir à Rafah et de libérer les otages ?
Alors, il a l'intention, effectivement, de mener cette opération contre Rafah. Ça, c'est, on voit toutes les déclarations de Netanyahou vont dans ce sens, avec, effectivement, l'objectif de récupérer les otages. On peut se poser la question sur le bien fondé de cette stratégie, puisque, effectivement, on ne sait plus très bien ce qu'il en est du cas de ces otages après 6 mois d'opération militaire.
133, et donc, personne manque.
Voilà. Exactement, sans qu'on sache exactement ce qu'il en est. Donc évidemment qu'il met cet élément en avant pour justifier cette opération. Quelles sont les chances de récupérer les otages dans ces conditions? Là, je pense que personne n'est en mesure aujourd'hui de pouvoir affirmer quoi que ce soit en la matière.
Pierre Aski, question d'Alain dans les Bouches-du-Rhône. Ces événements ne détournent-ils pas l'attention internationale du sort des Gazaouis?
Oui, bien sûr. Et on a vu la semaine dernière ce retournement incroyable où en début de semaine, Joe Biden disait, il avait des paroles très fortes, il disait que la stratégie israélienne à Gaza le dégoûtait. C'est des mots incroyables de la part du plus grand allié d'Israël. Et en fin de semaine, il lance ses avions pour sauver Israël de cette attaque. Donc on voit bien comment... cette voie très étroite dans laquelle est Joe Biden entre essayer de peser sur la stratégie israélienne à Gaza et de l'autre côté rester aux côtés d'Israël face aux menaces. Et c'est le cas de tous les pays qui ont un intérêt dans cette région et dans cette affaire. On voit bien que lorsque... les menaces deviennent existentielles sur Israël, comme c'est le cas avec l'Iran éventuellement, le problème palestinien passe en second plan et tous ces pays se mettent du côté d'Israël.
Donc ça profite à Netanyahou, finalement, ces attaques de samedi soir?
Oui, bien sûr, c'est évident, d'autant que sa stratégie à Gaza est de moins en moins claire. Ça fait 6 mois qu'il est en guerre, il a ravagé Gaza, il a fait des dizaines de milliers de victimes et il n'a pas de résultats tangibles à présenter, autre que le fait d'avoir éliminé quelques milliers de combattants du Hamas, mais il n'a pas mis la main sur les deux dirigeants qu'il voulait, c'est-à-dire Yahya Sinwar et Mohamed Deif. Et il n'a pas... donner la preuve que sa stratégie, son choix stratégique d'après le 7 octobre était le bon. Et les Américains qui, depuis décembre, en gros, font monter la pression pour qu'ils changent de stratégie, seraient en droit aujourd'hui, s'il n'y avait pas cette crise avec l'Iran, de continuer à faire monter la pression pour qu'ils changent au moins de méthode, de mode opératoire et qu'ils renoncent à cette opération à Rafah. Donc on est dans une situation qui, pour les Palestiniens, est dramatique parce que plus personne ne s'intéresse à eux, ni dans le monde arabe, ni dans les pays occidentaux qui disaient au moins en parole vouloir faire pression sur Israël, parce qu'il y a la menace iranienne qui a surgi et qui occupe et qui prend tout l'oxygène. Voilà.
Nicole Bacharan, oui.
Oui, malheureusement, ça c'est le sort des Palestiniens depuis 75 ans. Ils viennent toujours en deuxième, troisième, vingtième lieu, et particulièrement de la part des pays arabes qui se sont servis de ce maintien dans des camps de réfugiés pendant des décennies au lieu de les intégrer à leur population, comme ça a pu être fait dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde, quand il y avait, pour une raison ou une autre, une arrivée massive de réfugiés. Et l'un des grands problèmes, c'est que certes, et on comprend très bien pourquoi, la manière dont Netanyahou conduit la guerre est extrêmement critiquée, y compris par les Américains, mais personne ne propose une stratégie alternative. Tout le monde, les États-Unis au moins, et je pense une bonne partie des Européens et Israël, pensent qu'on ne peut pas traiter avec le Hamas. Et le Hamas en donne des preuves tous les jours. Ils viennent de refuser la dernière offre de trêve avancée par les Égyptiens, les Américains, les Émirats, si je ne m'abuse, et qui était toujours autour de la même chose, une trêve de X semaines, échange d'otages et de prisonniers. Le Hamas vient de refuser, et puis derrière, pour montrer que non, on n'est pas si méchant que ça, ils veulent bien une trêve, mais sans aucune libération d'otages, ce qu'ils savent très bien est complètement inacceptable. Donc que faire avec le Hamas, qui effectivement est toujours planqué courageusement dans ses tunnels, particulièrement à Rafah, très certainement entouré d'otages pour faire bouclier, et avec qui on ne peut pas traiter, et de l'autre côté, une population arabe, palestinienne, qui est dans une situation épouvantable. Alors John Kirby, le porte-parole du département d'État, dit que l'aide humanitaire arrive beaucoup plus, mais enfin, c'est largement insuffisant.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Général Patrick Dutartre, question de Jean-Pierre dans le Bas-Rhin. L'armée israélienne est-elle assez puissante pour contrer à elle seule l'Iran, le Hezbollah, les Houthis au Yémen et le Hamas à Gaza?
Combattre frontalement l'Iran en même temps que les trois autres fronts, c'est très difficile. Par contre, faire des actions spectaculaires, des actions, pas de représailles, mais en tout cas des actions militaires sur le terrain iranien, oui, ça, ça fait. À la fois contre les infrastructures, c'est peut-être l'occasion pour Netanyahou de mettre un coup d'arrêt ou en tout cas de ralentir le développement nucléaire iranien, ou contre les installations militaires, ce qui est peut-être le cas. Ils sont en train d'envisager en fait toutes les possibilités.
Est-ce que samedi soir, c'est l'armée, la défense israélienne qui vous a impressionné ou l'armée iranienne qui vous a déçu dans sa capacité à...
Alors, vous posez une très bonne question. Détruire. C'est vrai que cette démonstration de force iranienne, quelque part, a relativisé ses capacités. Ce n'est pas de la haute technologie. Et ça, quelque part, c'est un côté rassurant. On l'observait déjà parce que si vous analysez franchement les moyens militaires iraniens, ils ont une grande population. Ils ont une expérience du fameux conflit dramatique avec des centaines de milliers de morts Iran-Irak. Ils ont des moyens d'interception, des commandos essentiellement dans le détroit d'Ormuz. L'aviation, c'est l'ancienne aviation du Shah. À quelque chose près, quelques Sukhoi qui ont été rajoutés, mais ils font toujours voler des fantômes qui sont rebuts dans tous les pays du monde, des avions américains. Donc une aviation qui est extrêmement légère, pas du tout au niveau d'ailleurs de ne serait-ce que des Émirats Arabes Unis en face qui équipaient des Mirage 2009, bientôt des Rafales et des F-16 dernière génération. Donc ils ont quand même des moyens limités. Une précision qui n'est pas celle des Occidentaux, mais ils ont, il ne faut pas négliger leurs moyens, il ne faut jamais négliger leurs moyens. Et surtout, ils ont la capacité de bloquer les détroits d'Ormuz, qui a des conséquences mondiales au niveau de la circulation de l'économie et des prix du pétrole.
Pierre Aski, pourquoi Israël n'a-t-il pas reconnu avoir attaqué le consulat iranien de Damas? Ce qui a tout déclenché le 1er avril. Hein. Ils ont tué 14 personnes, dont des hauts gradés iraniens.
Alors Israël, traditionnellement, ne reconnaît pas ses opérations en territoire syrien. Et ça fait des années qu'ils emmènent contre le Hezbollah, contre des installations iraniennes, etc. Donc ils ne le font par définition pas. Après, il y a toute la question du statut diplomatique de la cible qui devient un peu plus tangent.
C'est inviolable, un consulat.
C'est théoriquement inviolable. Après, les Iraniens eux-mêmes ne se sont pas gênés par le passé. Il faut quand même se souvenir que la révolution iranienne a commencé par l'occupation de l'ambassade américaine et la prise d'otage des
diplomates américains. Israël est un pays...
Oui.
Ne recourt pas aux pratiques.
Alors, soyons clairs, je pense qu'Israël ne prend aucun gant dans sa guerre. Aucun gant. Et on le voit bien à Gaza. Je pense que si on fait la liste de toutes les opérations israéliennes, le nombre de lois internationales violées est considérable. Et d'une certaine manière, les territoires occupés, c'est une violation du droit international depuis des décennies. Donc, je crois que c'est un débat qui n'intéresse pas les Israéliens, qui ont toujours mis en avant leurs intérêts et leurs intérêts de sécurité par rapport au droit international. Donc, après, la question se pose, est-ce qu'ils ont sous-estimé l'impact que ça avait de frapper une installation diplomatique ou est-ce qu'ils ont tendu un piège aux Iraniens pour pouvoir faire cette escalade? La question se pose. On n'a pas la
Ils l'ont fait exprès pour provoquer ou ils l'ont fait vraiment pour détruire ces chefs iraniens?
À mon avis, les Israéliens procèdent de cette manière. C'est que dès qu'ils ont une information qui leur dit on a un général qui est sur notre hit list, notre top 10 éliminé, qui est dans tel bâtiment, on frappe. Et on regarde après s'il y a des dégâts collatéraux.
Qui leur a donné l'info d'ailleurs?
Ah, Bonne question.
Le renseignement israélien est quand même assez performant. Oui. Ils ont des moyens quand même d'information et on le voit régulièrement dans les cibles qui sont prises.
Mais ce qui est étonnant, c'est que le renseignement est plus efficace à l'extérieur qu'à l'intérieur. Sinon, on n'aurait pas eu le 7 octobre.
Oui, absolument.
D'un mot, parce qu'il resterait peu de temps, que risque la Jordanie maintenant qu'elle a pris la défense d'Israël, Agnès Levallois?
Il risque d'y avoir des réactions de la part de la population jordanienne qui peut exprimer son mécontentement vis-à-vis du roi qui a donc choisi de participer à la défense d'Israël avec cette population majoritairement palestinienne et qui voit d'un mauvais œil et qui est quand même très frappée par le drame qui se vit non seulement à Gaza mais en Cisjordanie qui est frontalier avec la Jordanie et avec les conséquences que ça peut avoir sur le royaume hachémite.
Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir éclairés. Bonne soirée sur France 5 et on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. À demain.
Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.